Et dans la question du jour, la question qui vous était posée était la suivante. Lise, eh bien, on a un petit souci avec nos amis de Skype. On va essayer de récupérer cela. Eh bien, non, on ne le récupère pas. Donc, Lise, ce sera que de l'audio pour nos amis du Facebook Live. La question du jour, laquelle était-ce? Eh bien, la suivante. Le voyage de Benjamin Netanyahou aux États-Unis sera-t-il perturbé par les manifestations? Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs?
Alors, nos auditeurs, comme souvent, ne savent pas très bien sur quel pied danser selon les divers réseaux sur lesquels ils répondent. Alors, on est à 100% de non sur X, on est à 50-50 sur Insta, donc on se mouille pas trop, et on est à 69% de oui pour 39% de non sur Facebook. Donc forcément, je vais demander son avis à notre invité. On est avec Stéphane Vanisch, chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste du discours politique. Stéphane, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce voyage de Benjamin Netanyahou, il est perturbé ou pas par les manifestants contre la réforme judiciaire?
Non, il ne va pas être perturbé, mais il va y avoir des perturbations, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que... il y a toute une série de manifestations qui ont déjà eu lieu à San Francisco avec Tesla. Il y en aura devant l'ONU. De protestations de la communauté juive américaine et des Israéliens. Il y aurait des Israéliens qui sont partis d'Israël contre le projet de loi, bien sûr, de Netanyahou sur la réforme de la Cour suprême. Le vrai problème, moi, qui me pose, enfin, la chose qui me pose question, c'est que le linge se lave en famille. Et donc, quand Netanyahou part à l'étranger, il n'est pas représentant de la majorité de la Knesset de 64 mandats, mais il est représentant de l'État d'Israël tout entier. Et je pense que ces manifestations sont malvenues, pour être franc, par rapport aux nombreuses critiques qu'a déjà Israël contre lui. Et donc là, en effet, il y a, un manque, je dirais, de patriotisme, en tout cas, ou de soutien minimal qui me gêne beaucoup.
Alors, c'est vrai que c'est ce qu'il a dit et ça a fait énormément polémique, Stéphane, puisque en fait, il a déclaré que les manifestants étaient comparables à l'OLP et à l'Iran, ce qui évidemment a provoqué des réactions assez énormes.
Oui, le souci, alors ça a coupé un petit peu, vous m'entendez là?
Oui, on vous entend bien.
Ça a coupé un petit peu. Le souci, c'est que ces manifestations, c'est un problème interne à l'État d'Israël. Et le fait que des manifestations sont, faites à l'extérieur, sur un problème interne, crée une distorsion importante, ça crée une légitimation des gens comme BDS ou comme des opposants à l'État d'Israël et qui, moi personnellement, pense me gêne beaucoup. De plus est, Netanyahou a fait très attention depuis quelques semaines, voit bien que Israël est bloqué, et donc visiblement la réforme sera à minima, et là ce sera là où il y aura les points de consensus, sauf peut-être pour l'extrême-gauche israélienne, mais ça on ne sera jamais contente, et donc là aussi ça évolue de ce côté-là. Une autre chose qui évolue également, c'est le soutien de moins en moins fort du mouvement Kaplan, entre guillemets, ce qu'on appelle... l'équipe Kaplan, dans le sens où s'occupant des problèmes d'éducation, s'occupant des problèmes de la violence interne de la communauté arabe, on est très très loin de la problématique de la justice et du coup, ça devient de plus en plus une opposition généraliste, entre guillemets. Et là, beaucoup de gens qui soutenaient ce mouvement contre la réforme judiciaire n'est pas d'accord pour continuer de soutenir et c'est pour ça qu'il y a de moins de monde qu'avant contre la réforme, même si les manifestations se portent bien. On n'est pas aux 200, 300 000 personnes comme avant, tout simplement parce que d'un côté, on commence à avoir une écoute du gouvernement et de l'autre, je dirais, une extrémisation du mouvement.
Alors, c'est vrai que ces derniers temps, Benjamin Netanyahou a surtout parlé de compromis. Et hier, il a même dit à Elon Musk que la réforme judiciaire initiale de Yariv Levin était sans doute mauvaise et provoquait un déséquilibre. C'est la première fois qu'on l'entend déclarer que la réforme était mauvaise.
Tout à fait, c'est la première fois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enjeux. Enfin, on retrouve un premier ministre, un vrai premier ministre, entre guillemets, avec Netanyahou en ce moment. C'est qu'il y a des enjeux énormes qui sont en train de poindre pour l'État d'Israël. Enjeux très positifs. Premier enjeu, bien sûr, le rapport à l'Arabie Saoudite, même si ça ne va pas être simple, dans le sens où on peut faire la paix avec l'Arabie Saoudite, ça veut dire qu'on va faire la paix avec le monde arabe. Et donc ça, c'est un enjeu, ça veut dire que c'est l'intégration d'Israël dans sa région, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, c'est quand il a été voir Musk, c'est de préparer Israël à l'avenir, c'est-à-dire sur l'intelligence artificielle. Nous sommes une start-up nation, nous sommes une des nations qui compte dans l'informatique, dans la cybersécurité, dans Internet. Il va falloir que qu'Israël reste, je dirais, compétitif et qu'on compte également sur l'intelligence artificielle et que Israël joue son rôle. Et le discours Netanyahu avec Musk a été excellent dans le sens où il a rappelé l'intelligence artificielle, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on fait les êtres humains, et peut-être que Israël va jouer aussi son rôle dans l'humanité. C'était un peu le rôle historique biblique, c'est-à-dire qu'on va donner la bénédiction, comme il a dit, non la malédiction, la bénédiction, c'est-à-dire le côté bon de l'intelligence artificielle et pas mauvais. Et donc on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une direction, il y a une route. Ça faisait très longtemps qu'Israël n'avait pas une direction collective, et là, Netanyahu le redessine. Et du coup, pour le redessiner et pour que ça soit audible, il faut qu'il baisse l'intensité de la réforme. Et là, en effet, il a désavoué Levin, ce qui n'est pas rien quand on connaît les rapports de force à l'intérieur du Likoud.
Absolument. Alors, c'est vrai que donc, ces manifestants, on va les voir aussi à New York, quand Benjamin Netanyahu va y arriver. Mais on les a surtout vus hier en Californie. C'est qu'ils ont quand même fait un coup d'éclat. Ils ont projeté sur les prisons d'Alcatraz la photo de Bibi en tenue orange de prisonnier derrière les barreaux avec la légende « Bienvenue Bibi » et une autre diapositive « Netanyahu, un dictateur en fuite ». Alors, pour une fois, Netanyahu va tout de même aller rencontrer des responsables de la communauté juive. Souvent, quand il va aux États-Unis, c'est pas sa priorité. Il voit surtout les gens politiques qu'il a besoin de voir et des journalistes américains, ce qu'il ne manque jamais de faire. Mais cette fois-ci, il a une rencontre avec des responsables de la communauté juive de plusieurs bords religieux, alors que justement, il s'attend à quelques critiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il va faire ça maintenant, Stéphane ?
Bah, pareil, c'est une cohérence pour calmer le jeu, tout simplement. C'est-à-dire, on a deux problèmes avec la communauté juive américaine. Premier problème, c'est qu'ils sont très démocrates et les démocrates sont de plus en plus anti-israéliens. Alors, ils ne sont pas majoritairement anti-israéliens, mais le courant anti-israélien, en tout cas, aux États-Unis et du côté des démocrates. Et donc, ça pose un problème parce qu'il y a une espèce de contradiction, y compris les juifs américains vont être pris dans un étau extraordinaire entre leur valeur et leur identité démocrate et leur soutien à Israël. Ça va commencer à tanguer très sérieusement. Et la deuxième, et donc là, le soutien à Israël n'est pas mauvais a priori. Et le deuxième problème, c'est sur la religiosité. La majorité des juifs américains sont libéraux ou modernistes, entre guillemets, ne sont pas orthodoxes. Et il y a un problème de religieux qui se pose autour de ça, vu qu'Israël est de religion juive orthodoxe et reconnaît très peu, in fine, le rite libéral au Morsarti. Et donc, du coup, il y avait une espèce de tension qui existait, notamment avec l'histoire du mur et avec les femmes. Et donc, du coup, il serait bon que ces tensions disparaissent également, que l'État d'Israël soit l'État de tous les Juifs, de toutes les façons de penser la religion juive. Et donc, du coup, là aussi, il y a une espèce d'ouverture qui se fait, qui est exactement dans la même logique que la critique de Levin, parce qu'en effet, ceux qui vont être les plus enfermés sont les plus religieux, notamment les datilomis, ceux qui soutiennent cette loi, et ceux qui sont les plus libéraux, notamment à l'intérieur du Likoud, sont ceux qui sont de moins en moins en soutien avec la loi sur le judiciaire, et de plus en plus pour une ouverture dans tous les courants judaïques. Donc on est dans une cohérence, et là, Netanyahu crée une cohérence pour réattirer, je dirais, le judaïsme américain. Il ne faut pas oublier que c'est la deuxième communauté du monde. En fait, la réalité sociologique ou anthropologique du judaïsme moderne aujourd'hui du 21e siècle, ça sera Israël plus les États-Unis, les autres sont que des adjuvants. L'Europe a moins d'un million de juifs aujourd'hui, donc c'est quasiment une histoire qui est en train de se finir. Et donc, du coup, c'est très important pour Israël de garder un lien avec la diaspora. Et aujourd'hui, la diaspora de l'avenir, c'est le judaïsme américain, donc c'est important de garder des liens.
Ma dernière question, Stéphane Vanisch, on sent que ça bouge en ce moment entre le démenti de la normalisation entre l'Arabie Saoudite, la nouvelle initiative de paix lancée par l'Arabie Saoudite et l'Union européenne. Donc, il semble que c'est très important aujourd'hui que Benjamin Netanyahu et Joe Biden soient sur la même longueur d'onde.
Oui, parce que là, il y a un enjeu extraordinaire qui est lié d'abord au développement économique, qui est lié au développement sécuritaire. Le vrai souci, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite va avoir le droit de... un droit à l'atome ou pas, un droit à l'enrichissement atomique ou pas, du nucléaire, pour pouvoir faire des bombes ou pas potentiellement. Donc ça, c'est un enjeu extraordinaire, parce que si tous les pays du Moyen-Orient se mettent à faire des bombes atomiques, on va être dans un rapport de force du type guerre froide européen. Donc c'est pas très bon pour le développement et c'est très dangereux potentiellement. Et donc du coup, là, il y a un enjeu, c'est éviter que l'Arabie Saoudite accède au nucléaire, mais en même temps, c'est très compliqué qu'il n'accepte pas, parce qu'une technologie se banalise au des temps, même si c'est du nucléaire, et de plus en plus de pays vont pouvoir avoir accès à la bombe atomique, et donc cela veut dire aussi de la dissuasion, et donc là aussi il y a un enjeu important, c'est comment dissuader les pays soit d'atteindre la bombe nucléaire, soit une fois qu'ils l'ont, de ne pas vouloir la lancer. Et donc là aussi, ça veut dire aussi que l'appareil sécuritaire israélien doit se mettre à à la mode, entre guillemets, parce que pour l'instant, ils sont contre le fait de l'accès au nucléaire, mais à un moment donné, il va falloir plutôt qu'Israël exerce une vraie dissuasion, notamment les sous-marins sont là très importants, comme à la française, la dissuasion à la française. Mais c'est vrai que le lien entre Biden et Israël, entre les États-Unis et Israël sur ce sujet est très important pour ne pas avoir le même dérapage qu'avec l'Iran, par exemple.
Merci beaucoup, Stéphane Vanisch, un chercheur à l'Université de Tel Aviv, spécialiste du discours politique. Bonne journée à vous, à très bientôt.